animateur Émilien Roscanou. Et nous avons également Tessie Jean-Paul qui fait son entrée dans le studio. Bienvenue à toutes et à tous.
Bonjour.
Donc ce soir, on va faire un petit melting pot. On a plusieurs sujets à aborder avec vous. Tout d'abord, on va commencer avec le financement des médias alternatifs. Ryan Roumillard s'est penché sur la question. Est-ce que ça pose des problèmes éthiques? Peux-tu nous en dire plus, Ryan?
Bon, alors d'abord, je vais commencer simplement. Donc, en fait, on sait tous, la première utilité des médias alternatifs est de permettre à chaque citoyen de s'informer ou de s'exprimer plus librement. Ils peuvent être d'orientation politique différente, mais au final, c'est toujours la voix du peuple qui devrait être prise en compte. Ce qui est intéressant à observer chez les médias alternatifs, c'est leur mode de financement. Vous l'aurez sûrement remarqué, les médias alternatifs tels qu'Agoravox, Altermonde et autres ne possèdent pas vraiment d'espace de publicité, contrairement aux géants de la presse qui, eux, peuvent publier des contenus sponsorisés. Et étant donné qu'ils sont indépendants et donc censés n'appartenir à aucun groupe médiatique, les médias alternatifs sont financés par les particuliers, c'est-à-dire grâce à des systèmes d'abonnement mensuel ou des dons ponctuels. Alors je me suis un peu baladée sur les différents sites de ces médias citoyens pour observer les différents modes de financement. Est-ce que, je sais pas, peut-être que certains d'entre vous sont déjà abonnés ou ont déjà fait des dons à des médias alternatifs?
J'ai déjà fait un don à Ricochet.
Même chose pour moi, là, quand ils ont été poursuivis
c'était
par
pour la poursuite,
Martineau, ouais.
C'est ça, mais à part ça, est-ce que je me suis abonné à un média alternatif? Le Devoir n'est pas un média alternatif.
J'ai déjà fait un don à Martineau de mon temps en lisant un de ses articles, mais sinon, absolument pas.
À part, j'avais déjà fait un don peut-être pour Radio Centre-Ville. Mais c'était un don que, genre, mon père m'a obligé à donner. Je pense pas que ça compte.
Bon, en fait, premièrement, il faut savoir que tous les médias alternatifs ne proposent pas exactement les mêmes types d'abonnements. Par exemple, chez Agoravox, on peut choisir de donner n'importe quelle somme mensuellement ou ponctuellement. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, avec ce mode de financement, c'est qu'au final, tout le monde peut participer indépendamment de ses moyens financiers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de seuil de don minimum, en fait. Donc, en plus... Si un citoyen choisit de donner 200$, il n'aura pas plus de pouvoir qu'un autre qui en donnera 10. Le fonctionnement de l'esprit libre est un peu différent. Bien sûr, il y a des possibilités de faire des dons ponctuels de la somme que l'on veut. Cependant, il y a un système d'abonnement mis en place. Alors, l'abonnement de base est de 20$, puis de 30$ pour l'abonnement plus et 50$ pour l'abonnement mécène.
C'est mensuel ou c'est annuel, ces montants-là?
C'est mensuel.
OK.
D'un côté, ce qui est admirable selon moi, c'est que finalement, les membres réguliers ont à peu près les mêmes droits que les membres mécènes. C'est-à-dire, ils ont un droit de vote à l'Assemblée Générale annuelle, des invitations aux événements de socialisation. Mais les trois types d'abonnements offrent également la possibilité de suggérer des sujets au comité de rédaction, ainsi que de suggérer des événements de réflexion. C'est juste sur ce point-là, en fait, que je suis un peu plus mal à l'aise. C'est parce qu'en fait, ça veut dire que ceux qui ont les moyens de payer au moins 20$ par mois ont plus de poids sur le comité de rédaction.
C'est quand même très difficile pour des médias alternatifs de trouver des modes de financement. Là. C'est surtout ça le défi.
Puis, ben, c'est ça.
Puis ils savent pas trop où donner de la tête parce qu'à un moment donné, si tu verses trop dans la publicité, c'est difficile de trouver des publicitaires. Puis aussitôt que tu fais affaire avec des publicitaires, ben, après ça, est-ce que tu perds un peu ton indépendance? Ça dépend
à
qui tu fais de la publicité.
Exact.
Donc après ça, tu refiles la facture aux consommateurs de nouvelles, mais c'était beaucoup ancré dans les mentalités, beaucoup plus auparavant, de payer pour financer son média, alors qu'aujourd'hui, il y a tellement d'informations gratuites, de piètre qualité, certes, là, en ligne, mais... Tout le monde s'informe gratuitement, puis c'est comme plus dans les mentalités, j'ai l'impression.
Mais c'est exactement ça, en fait. Et aussi, de l'autre côté, ce type de fonctionnement, contrairement à celui d'Agoravox, peut permettre de fidéliser davantage les lecteurs et d'avoir, un filet de sécurité, en fait, en ce qui concerne la survie du média et du financement.
C'est ça, parce que quand tu payes, t'es comme plus investi dans le média que tu lis.
Ben oui, c'est ça.
Je veux pas.
Et donc, au final, je me suis penchée sur le média Altermonde. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent.
Non.
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 En fait, c'est un média alternatif français qui existe depuis 2015. Il publie du contenu continuellement sur son site internet et sort des revues à peu près tous les 3 mois. Bon, en fait, l'exemple d'Altermonde est assez intéressant parce qu'il s'agit d'une SCIC, c'est-à-dire d'une société coopérative d'intérêt collectif. C'est là que, selon moi, on a un petit problème qui se pose. Je rappelle rapidement que les SCIC sont, je cite, « des entreprises coopératives qui ont pour mission d'être économiquement efficaces et socialement utiles ». Parmi ces sociétaires, on retrouve bien sûr la catégorie des abonnés, on retrouve plusieurs professionnels de l'information, celle des employés, et au final, on retrouve aussi des organisations civiles. Et c'est ce qui m'a le plus frappé. En fait, on y trouve des organismes comme la FAP, qui est la Fédération des, la Fédération Accueil Paysan, Frères des Hommes, qui est en fait une association qui lutte contre la pauvreté, la CGT, la FIDH, qui lutte pour les droits des hommes, et beaucoup d'autres encore.
Les droits des hommes, mais pas ceux des femmes.
Ah, pardon, je me suis dit les droits humains, c'est moi. voilà. Donc en fait, on est d'accord que tous ces organismes ont quand même des causes et des intérêts à défendre. Étant donné que ce sont des actionnaires avec, je suppose, plus ou moins de plus gros budgets que les simples abonnés, est-ce qu'on peut craindre que leurs intérêts soient davantage pris en compte?
Oui, c'est une bonne question. Ça relève encore de l'indépendance du média. Est-ce que quand t'es un... Même si t'es un organisme à but non lucratif ou un syndicat, ou mais que t'as un gros budget, t'as un gros membership puis que tu t'impliques financièrement dans un média, est-ce que ça peut pas te teinter ne serait-ce que la tendance ou les reportages ou...
Effectivement. Ben, moi, je trouve ça très intéressant parce que justement, est-ce que c'est mon bon micro?
Oui, c'est okay. Ton bon micro.
oui, OK. En fait, c'était mon lien avec l'ONU, par exemple. C'est à peu près la même problématique. Okay. Comme quoi que il y a des lois qui sont faites, mais les mêmes gens qui font les lois financent l'industrie, soit de la flotte ou de l'industrie pétrolière. Donc, tu sais, je trouve ça dommage quand même parce que on est pris avec genre tu sais la personne qui paie c'est la personne qui donne l'information aussi, donc c'est important en tant que tu sais on remet toujours la responsabilité envers le lecteur, mais c'est vrai que le lecteur a quand même une très grosse part de responsabilité dans qu'est-ce qu'il vit, dans comment il s'informe et tout, donc c'est important. Puis en même temps, tu sais, moi, je prends toujours cet exemple-là parce que ça m'avait vraiment frappé quand j'avais lu un livre au cégep comme quoi, et ça disait comme quoi que 50% de la population québécoise était analphabète fonctionnelle. Donc, il y a tellement dans le sens que tu peux pas te permettre d'écrire n'importe quoi, tu peux pas te permettre d'abrutir ta population. Donc, je pense que malgré que les gens, ils ont de l'argent à mettre sur la table et tout, mais c'est parce que c'est quand même l'avenir d'un peuple que... Tu handicapes en faisant des choix éditoriaux qui sont douteux. Donc, tu sais, quand tu penses à ça, là, ou quand moi je pense au grand Pierre Carl Péladeau, c'est dommage parce que t'aides pas ta population, puis t'as beau avoir l'amour du Québec, mais ça se transmet pas par ta volonté de vouloir éduquer les gens. Donc.
Personnellement, je crois que c'est un drôle de modèle. Je sais qu'à une certaine époque, au Québec ou ailleurs dans le monde, on voulait faire un espèce de système politique qui disait ouais, le vote en proportion de l'argent. Ce qui veut dire que les gens plus riches peuvent voter et avoir plus d'impact. Okay. Donc, s'impliquer plus dans le système politique. Mais c'est un truc qui, évidemment, va faire à deux vitesses parce que les gens qui vont avoir plus de pouvoir, plus d'argent, donc plus d'impact. Si, en plus, ces gens-là investissent la radio, investissent les médias de masse, là, on parle d'une influence qui est énorme. Regardons Donald Trump, regardons les médias de droite aux États-Unis en ce moment. Je veux dire, ces gens-là ont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'influence comparativement à leur réel impact dans la société. Alors, ouais. Je pense que ce serait vraiment un modèle à deux vitesses qui serait désavantageux pour l'ensemble de la société et serait avantageux uniquement pour une petite strate, tout simplement.
Ouais. Je vais reprendre. J'avais déjà fait une chronique sur la médiatisation du conflit israélo-palestinien, déjà ici à Choc.
Pour ceux qui se demandent pourquoi on entend tout d'un coup mieux Tessie, c'est parce qu'elle a un nouveau micro qui fonctionne mieux.
Merci, Emilien. Donc, en fait, j'avais dans ma chronique, j'avais justement élaboré le fait que, par exemple, aux États-Unis, il y avait vraiment un parti pris vraiment pour le parti Israël. Donc, il y avait très peu de couverture médiatique, de bonne couverture médiatique faite du côté palestinien. Qu'est-ce qui est très dommage parce que finalement, toute la population pense, tu sais, il y a pas de méchant, il y a pas de gentil, puis ça fait que la population pense vraiment qu'il y a pas de nuance en fait. Mm. Puis c'est dommage parce qu'on n'est pas dans un film de Walt Disney, dans le sens qu'il y a beaucoup de nuances, puis dans le sens que tu sais autant le côté Israël que le côté Palestine a ses torts, mais il faut être capable de voir que tu sais Israël c'est pas OK entre guillemets le mouton blanc du conflit. Donc, il faut nuancer le tout.
C'est un très bon exemple, parce qu'imaginons justement conflit israélo-palestinien, puis dans ce contexte, on revient ici, les gens qui ont plus d'argent peuvent parler de ce qu'ils veulent.
C'est ça.
Et malheureusement, pour la Palestine, c'est pas le côté le plus riche. Ben, bon, c'est assez discutable aussi, mais je pense que il y a des gens qui font du meilleur lobby que d'autres, et c'est certainement pas les Palestiniens pour le moment, malheureusement.
Oui, surtout aux États-Unis, quand tu penses que les personnes qu'ils ont le plus d'argent et qu'ils ont le plus d'influence, c'est les personnes d'origine juive. Donc, il y a une question à se poser sur la couverture médiatique de ce conflit-là, en fait. Donc, c'est intéressant que le point que tu soulevais avec ta chronique, justement, sur... Tu sais, des fois, la volonté des médias alternatifs est-elle plus présente?
Ben, c'est ça. Mais après, je me suis dit aussi, OK... On va dire qu'ils veulent, ils ont de la bonne volonté. Ils veulent vraiment informer différemment. Mais le problème, c'est qu'au final, ils dépendent des gens qui les financent.
Effectivement.
Donc s'il n'y a plus de financement, ils vont plus survivre. Et en même temps, s'ils financent ils publient du contenu qui n'intéresse pas les gens, c'est pareil. Tu vois ?
C'est ça.
C'est ça que je trouvais un peu paradoxal, en fait, que je me suis dit, au final, on pourrait retrouver exactement les mêmes schémas que les médias traditionnels.
Mm-hmm. Oui, puis est-ce que les nouvelles qu'il faut entendre sont celles qu'on aime entendre?
Ben, c'est ça.
Ça, c'est un autre débat. On va faire une petite pause musicale. Donc, on va écouter la chanson Main Girl de Charlotte Cardin. C'est la meilleure chanson du monde, Camilla.
Elle est partie.
I'm the call at one, but you just wanna visit. I'm the call for some kind of like an exit to your main girl, to your main girl, to your main girl. I'm the call at two, but I know you never ask, 'cause I've been the one you assume will last. Past your main girl, past your main girl, past your main girl. Now I'm just a pretty face, who can help you? Just a pretty face. Come and walk my way. Who's your main girl? Who's your main girl? Who's your main girl? When it comes to four, I'm not there anymore. I'm in Technicolor painting line before your main girl. Your main girl, this insane world. So now I'm just a pretty face. Who can help you? Just a pretty face. Who can help you? Get your shit together. Me all along, I risk no gain, and I'm a fool to love the pain. Don't leave me
Vous venez d'écouter la superbe chanson Main Girl de Charlotte Cardin, mise en onde par notre main girl Camila Rodriguez-Séa.
Merci.
Donc, en deuxième chronique, nous avons Étienne. Étienne, tu vas nous parler du défi de la visibilité des médias alternatifs. Pourquoi ils ne peuvent pas se faire voir, mais pas dans ce sens-là, mais bon.
Alors, tout d'abord, bonjour tout le monde. Bien content d'être de retour à la faute aux médias. Vraiment, je me suis ennuyé de ce multimédia. Un méga vide s'était installé en moi cet été. Les grands médias formant des conglomérats pouvaient former une alternative réaliste à ce média québécois. Après un mois d'approvisionnement d'informations en provenance de Radio X, de Radio Énergie, du FM 93, mon cerveau n'était que bouilli. Je l'avoue, j'ai touché le fond du baril. De drôles d'envies m'ont envahi. Par exemple, la semaine dernière, soudainement, je trouvais les discours de François Legault attrayants, les rediffusions du congrès de la CAQ intéressants, les textes de la meute bienveillants, Philippe Couillard éloquent. Les amalgames de mauvais goût étaient devenus de bon goût. Heureusement, j'ai vu la lumière au bout du tunnel, ou plutôt, j'ai entendu l'écho d'une radio qui offrait une alternative à ces médias d'abrutissement de masse. Mais à qui la faute de cette dérive intellectuelle et médiatique? Toujours est-il qu'une fois les vapes de la désinformation dissipées, une idée se matérialise dans mon esprit. Les médias de masse possèdent une visibilité titanesque. C'est comme si Atlas cachait la terre qu'il portait sur ses épaules par ses énormes biceps. De ce constat, une autre réflexion parallèle s'est imposé. Les médias alternatifs sont marqués par un manque de visibilité flagrant. À titre d'exemple, si je vous parle de les Alter Citoyens, AO Espace de la Parole, Alter Média, CKIA 88.3 FM Radio Basseville, CIBL 101.5 FM, il y a de bonnes chances que ces médias ne vous disent absolument rien. Bon, mis à part si vous avez fait un baccalauréat en communication politique et société à l'UQAM et que vous participez à l'émission de radio La Faute aux médias.
Hashtag LFAM.
Sinon, vous faites partie du commun des mortels, alors je vous suggère de taper liste des médias alternatifs au Québec dans la barre de recherche de Google et sélectionner le troisième lien. Ça va être beaucoup plus facile. Par contre, si je parle de Sun News, LCN, La Presse, Cogeco, le Journal de Montréal, cela vous sonne sûrement une cloche ou encore ça vous donne le goût de vomir. C'est à la discrétion de votre estomac.
Hashtag Journal de Montréal.
Plusieurs dimensions sont à prendre en considération pour expliquer cette visibilité qui s'apparente à une personne atteinte de myopie dégénérative doublée de cataracte.
Hashtag Emilien.
C'était très bas, ça, très bas. Mais j'ai pensé la faire avant.
Dans un premier temps, il y a la contrainte, qu'on va dire, économique. Inutile d'élaborer sur le fait que les démarrés de ce monde n'investiront jamais un sou dans un journal, à la radio ou un autre média qui pourrait critiquer de manière efficace l'établissement libéral. Cette contrainte est très certainement majeure dans un monde néolibéral où le capitalisme est élevé au rang de Dieu. Les excréments même de cette doctrine économique devenue politique et puis sociale sont présentés comme de vrais reliques sacrées. Les prêtres remplacés par les banquiers, les églises par les agences de notation, les prières par les actions cotées en bourse. Bref, vous voyez le genre. L'argent est devenu le nerf de la guerre, mais en même temps le nerf de la paix.
Hashtag Humans of Late Capitalism.
Ça fait beaucoup d'hashtags en chronique. Toujours est-il que le financement est étroitement relié à la visibilité. Il faut payer les publicitaires, plus investir les ondes de radio, s'acheter du temps d'antenne à la télévision, ou plutôt du temps de cerveau. Rien n'est gratuit. Évidemment, il y a les médias sociaux. C'est une alternative intéressante, mais possède un impact encore limité sur les masses. La visibilité n'est pas uniquement une affaire d'argent. Il faut prendre en considération la réputation des médias alternatifs, qui est souvent dénigrée par des journalistes dits de profession. J'imagine que pour une pluralité de personnes qui baignent dans le milieu journalistique universitaire, être la cible des critiques de Richard Martineau est un honneur et une manière de savoir qu'ils sont sur la bonne voie. Toutefois, il faut avoir en tête que même le bouffon possède une influence certaine à la cour du roi. Il devient évident que la voie alternative est pavée de difficultés, puisque ne baignant pas dans la mare la plus fréquentée. Une question double s'impose alors. Est-ce que les médias alternatifs devraient contribuer aux médias médias conventionnels ou ils devraient plutôt favoriser une ligne éditoriale alternative? Faut-il réinventer la roue ou la faire tourner? La question est lancée à tous les auditeurs et auditrices, mais aussi aux personnes réunies autour de cette table, ainsi qu'à Richard Martineau. Si tu nous écoutes, écris-nous une petite chronique bien abrasive et bien pensée comme toi seul, tu peux le faire. Merci.
L'invitation est lancée, M. Martineau. On va vous accueillir avec plaisir à la Photomédia.
Hashtag Martineau Média.
Oui, donc c'est une bonne question. Qu'est-ce que vous pensez du fait, pour un média alternatif, peut-être de s'intégrer à un média sous le couvert de l'indépendance, mais à quand même être financé, par exemple, par un média plus important ou à profiter de sa tribune? Par exemple, je ne sais pas si c'est le cas, vous me corrigez peut-être, MaTV, qui est un poste de télévision citoyen, où il y a des projets citoyens qui sont diffusés, mais c'est quand même financé par Québécois, ce poste de télévision-là. Donc, est-ce que ça pose un problème? Est-ce que ça peut véritablement être indépendant, même si c'est financé? Jusqu'où ça peut aller?
Comme tu disais, Étienne, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, tu sais... Même chose pour toi, Ryan, tu disais comme quoi que, tu sais, dans le sens que si on a plus de financement, on peut plus avancer. Donc, MaTV, oui. Tu sais, moi, je pense que le contenu de MaTV est très intéressant. Ça offre quand même un contenu, entre guillemets, alternatif à qu'est-ce qu'on voit déjà, par exemple, dans toutes les productions, pas Vidéotron, mais Québécois. Mais... Tu sais, je sais pas à quel point... Est-ce que je verrais tant la différence en regardant les deux? Je sais pas à quel point dans l'instant décisionnel, ça a tant un impact que ça après. Tu sais, à savoir, est-ce qu'il y a des choses qui seront pas diffusées à cause que c'est du Québécois qui est en dessous? C'est sûr que oui, mais...
Mais c'est une question de mécénat aussi, puis c'est une question... Ouais. Puis la question se pose parce que... Pour se donner bonne conscience, des fois, des grosses entreprises comme ça veulent que ces organismes-là, qu'ils chapeautent, qu'ils financent, soient complètement indépendants, justement pour pouvoir le dire. C'est complètement indépendant, mon bras va pas jusque-là. C'est la même chose pour les compagnies pétrolières qui financent des entreprises, des OSBL à vocation verte. Là. Est-ce que tu acceptes de recevoir du financement de ces conglomérats-là pour ensuite poursuivre cette mission-là? Est-ce que juste le fait de recevoir l'argent fait en sorte que tu vas moins critiquer si vient un moment où il faut que tu le fasses? C'est ça la question qui se pose, parce que probablement que, puis je le pense sincèrement, là, que Québécois n'est pas dans la salle de rédaction de MaTV, puis leur dit « Non, tu passeras pas tel contenu politique », ou « Mais juste le fait que cette entreprise-là, ce conglomérat-là finance MaTV, si quelqu'un voulait faire une émission sur les médias de masse puis critiquer Québécois, je sais pas s'il le ferait juste parce qu'il veut se retenir. Là.
Dans l'optique du... Oh, pardon. Je pense qu'il y avait...
Camilla, voulait-tu ajouter quelque chose?
Oui. Dans le fond, qu'est-ce qui est sûr, qu'est-ce qui est vérifié? Ce dont les journalistes parlent beaucoup, c'est de l'autocensure, en fait.
C'est ça.
En fait, c'est eux qui se censurent eux-mêmes quand ils travaillent au Journal de Montréal ou à la presse. Ils sentent pas vraiment à l'aise de critiquer leur patron. Puis ça fait qu'au final, le journal, le média, émet pas de critiques concernant les très grands conglomérats. Tu sais, il faudrait pas mordre la main qui nous nourrit, quelque chose comme ça.
C'est ça. Exact. Puis aussi, c'est arrivé. Il y a des exemples où il y a des journalistes qui ont publié des articles contre leur employeur. Même à la presse, là, c'était André Pratt ou c'était l'autre là, qui a été...
Foglia.
Pas Foglia. Foglia, c'est comme le mouton noir de la presse. Là. D'ailleurs, il est parti, mais il y avait... Je sais plus si c'est André Pratt ou si c'était l'autre là, qui était comme... il a été nommé rédacteur en chef à la presse après être parti pendant quelques années. Il avait critiqué la famille Desmarais dans un article, puis il avait dû faire comme 2 ou 3 ans ailleurs.
On parle d'autocensure, mais l'autocensure, elle est venue à un certain point parce qu'avant, justement, il y avait sûrement une certaine dénonciation, certains sujets, puis ça peut passer en haut. Alors l'autocensure, elle s'est pas créée tout seule d'elle-même comme ça, elle vient d'un point de départ.
Oui, puis chaque média aussi, les médias plus traditionnels, plus anciens, avaient tous
tous leur ligne éditoriale. Mm-hmm. Tu travaillais pour tel média, c'était étiqueté, c'était un média de gauche ou un média qui
ou fédéraliste.
Fédéraliste, ou... nationaliste, de gauche, de droite. Puis là, il y a comme eu une espèce de moment où on a voulu aller vers une plus grande neutralité du média, la sacro-sainte neutralité, où tu voulais présenter le pour, le contre de chaque situation. Mm-hmm. Mais là, je pense que c'est comme dans l'air du temps avec ce qui se passe aux États-Unis, on assiste comme à un retour à une espèce de journalisme plus engagé. Juste le New York Times, par exemple, qui a engagé énormément de gens pour enquêter sur Trump, c'est ça, c'est comme reprendre un espèce d'idéal de trouver la nouvelle puis de plus se confondre dans une espèce de fausse neutralité.
Ou du moins, c'est un changement d'idéal, mais ce qui est certain, c'est que ça se voit aussi au Québec. Au Québec, il y a de plus en plus de chroniqueurs, plus en plus d'opinions et moins de faits, disons, purs et durs. Là.
Effectivement, mais moi, je pense qu'aussi, il faut, dans le sens que je reviens toujours à ça, là, mais il faut revenir à l'éducation, parce que je trouve pas ça normal que... C'est simplement dans des programmes spécialisés, par exemple, comme la communication, qu'on apprend à lire les articles, qu'on apprend à décoder. C'est pas normal que, parce que mon frère est en comptabilité, qu'il sait pas décoder un article. Ça n'a pas rapport d'être en communication ou pas en communication.
Ça a rapport avec être un citoyen.
Être un citoyen, effectivement. Donc ça devrait être, tu sais, déjà appris dès le secondaire, dans l'éducation générale, OK, comment décoder un article, parce que c'est pas normal qu'il y ait tu sais, dans le sens qu'on n'est pas tant nécessairement à étudier dans les domaines des communications, puis encore moins les gens issus des communautés culturelles au Québec. Fait qu'il faut être capable de prendre ça, puis d'en faire, comment je pourrais dire, tu sais, un intérêt public, en fait, pour que tout le monde puisse être capable, OK, j'ai lié cet article-là, OK, ça c'est du pourri ou ça, c'est pas du pourri. Tu sais, comme à quel point tu peux croire ou analyser cet article-là. Donc, tu sais, je pense que c'est vraiment de revenir à la base, puis je pense que c'est ça qui devrait être important.
Oui, ben qu'est-ce que t'en penses, Étienne?
Ben, moi, je voudrais juste rebondir sur le fait qu'aux États-Unis, oui, du côté du New York Times, on engage beaucoup de gens pour Trump. Mais depuis quelques années, déjà, la droite américaine s'organise énormément, la alt-right, mais aussi les médias. Il y a beaucoup de médias de droite qui poussent aux États-Unis. Puis, pareil au Québec aussi, le populisme.
C'était comme tu dis, c'est comme une réponse à
ouais,
Fox.
Moi, je pense que oui, je pense qu'en fait, USA qui s'est préparé depuis quelques années déjà, mm-hmm. et le New York Times répond à cette vague-là parce qu'elle sent le besoin de faire, parce qu'elle sent qu'il y a une obligation. Au Québec, il y a un peu une même chose. On arrive avec un populisme qui est de plus en plus grandissant, qui est très, très présent à Québec, je trouve, à la ville de Québec. Après, tout ça est relié avec l'éducation, effectivement. Parce que, quelqu'un qui a le sens critique de l'éducation, qui va mettre en cause qu'on lui apprend, la nouvelle qu'on lui montre, qu'on lui sert chaque jour, évidemment, il va se poser la question à savoir, OK, est-ce que c'est vrai? Est-ce que le seul fait de répéter la répétition fait que c'est une vérité? Mmh. Alors, tu sais, c'est vraiment... L'éducation est centrale là-dedans, mais regardons l'éducation aux États-Unis. L'éducation ici, je suis désolé, mais c'est pas en augmentant, c'est pas positif, je vois pas une façon positive. Regardez, en 2012, il y a une grève étudiante qui a porté fruit. Mais à quel point ça a porté le fruit, puis il faut voir les ramifications de tout ça aujourd'hui.
Je pense que t'as raison, mais il y a aussi au-delà de ça, c'est pas juste une question d'éducation non plus,
non.
C'est aussi une question de malhonnêteté, puis de populisme.
Mais de conscience,
puis
là, oui,
parce que c'est pas vrai que un populiste de droite comme André Arthur ou Jeff Fillion ont aucun rôle à jouer, parce que
ben oui, effectivement.
Ça verse dans la manipulation, mm-hmm. puis dans la malhonnêteté intellectuelle.
Oui.
Donc, quand tu utilises les bons mots pour manipuler les bonnes personnes, ben, peu importe ton niveau d'éducation, c'est de la manipulation. Donc, c'est comme... C'est un mélange de tout ça qui crée un climat malsain.
Mais en même temps, une personne éduquée est plus difficile à manipuler. Alors, tu sais, c'est là que je pense que aussi le populisme exclusif, le populisme intégriste est vraiment important à différencier. Comme on parle de Trump, c'est exclusif, il va exclure l'autre d'emblée. Puis au Québec, André Arthur et compagnie, c'est exactement, ils s'inscrivent dans cette vague-là. Alors je pense qu'on n'est pas en vase clos au Québec. Les États-Unis ont un certain impact. C'est pas du tout le même rapport socio-économique, c'est pas du tout le même contexte. Mais il y a quand même un qui influence l'autre
plus.
Mais n'empêche que ces sentiments-là qui sont propagés par les grands populistes, les exclusifs, comme tu dis, ben dans le fond, ça part de quelque chose, ça va chercher les gens à cause que il y a un sentiment assez intrinsèque, disons, de dépossession chez les gens. Les gens sentent que leurs institutions ne leur appartiennent pas. Ils sentent que ils n'ont aucun pouvoir sur l'influence, disons, une perte de contrôle sur la direction que prend leur pays. Et face à ça, il y a l'inconnu, c'est les migrants, l'immigration. Mm-hmm. Puis, il y a une réaction de rejet qui est faite à partir de là, mais c'est clair que, disons, le contexte social est extrêmement important à prendre en compte. Le développement de la radio d'extrême, ben, de droite ou d'extrême droite est assurément lié au développement des mouvements de droite et d'extrême droite mm-hmm. au Québec. Aujourd'hui, il y en a, disons, l'extrême droite, il y en a à peu près 3500 personnes au Québec qui sont activement des militants qui sont dans ces, les groupes tels que la Meute, qui est le plus grand, mais il y en a des plus petits. On a entendu dernièrement parler d'une milice armée, la milice du 3%.
Donc, il y a aussi Atalante Québec.
Oui, bon, ben, il y en a plein.
Qui est non-violente. Quand une milice armée non-violente, c'est assez, ça me fait toujours bien rire. Parce qu'eux, ils se définissent comme une milice non-violente, mais armée, bref.
Ouais.
Moi, mon fusil n'est pas une arme.
Ouais. Bref.
Oui, c'est ça. C'est un contexte social qu'il faut prendre en compte. Puis quand tu offres à des gens qui ont certaines frustrations économiques, entre autres, et sociales, un bouc émissaire qui est, par exemple, l'autre, comme tu l'as dit, ben ça attise la xénophobie complètement injustifiée quand on sait que le véritable responsable des problèmes de ces gens-là, ouais. c'est le capitalisme, c'est leur condition
matérielle. Oui, mais moi, j'aimerais... C'est... Exact. Puis j'aimerais qu'on parle un petit peu des conséquences de cette xénophobie-là. Oui, on en entend parler. Mm-hmm. Oui, c'est poche, le racisme, c'est mal, tu sais. Sauf que, concrètement... Après la Charte des valeurs, ça a été calculé, quantifié que les gestes à caractère islamophobe ont augmenté. Donc, à chaque fois que les chroniqueurs, les pseudo-journalistes se permettent des discours identitaires, des discours xénophobes, ben il y a une personne qui se fait insulter, il y a une personne qui sent moins chez elle. Puis mm-hmm. c'est pas juste, parfois c'est pas juste des insultes, parfois c'est physique. Donc il y a des conséquences
oui,
réelles.
Justement le directeur de la mosquée de Québec.
Ben oui.
L'association, je me souviens.
Oui, c'est l'association, c'est du centre culturel.
Centre culturel musulman de Québec. Sa voiture a été incendiée. Pendant qu'il était pas chez lui, par ses voisins.
C'est débile, là. C'est rendu à un niveau tellement surréaliste.
C'est hors de contrôle.
Ben oui.
Attention. Genre, ça augmente, mais hors de contrôle.
Ben, moi, je trouve comme... ça hors de contrôle. Tu incendies la voiture de quelqu'un.
C'est déjà trop. Ça, c'est totalement d'accord, mais il ne faut pas non plus surenchir. Je veux dire, la réalité est là, elle est horrible. Faut la condamner. Mais regarde, moi, le problème que j'ai avec ça en ce moment, c'est quand je vois le gouvernement Couillard jouer avec cette chose.
Oui, il profite.
Alors, moi, la vraie responsabilité, oui, elle est devant les animateurs. Oui, elle est sur certaines personnes qui ont un rôle dans la société. Mais quand le gouvernement lui-même fait de la politique, lance des consultations juste avant les élections, alors qu'il y a des consultations qui sortent déjà obscures, on ne sait pas comment ça va se dérouler, au lieu d'injecter...
Finalement, c'est à huis clos médiatique, mais c'est public, donc les gens peuvent assister.
OK, OK.
Donc ça, c'est la nouvelle patente qui
est
sortie ce matin.
Mais tu sais, c'est comme si tu vas à la chasse, tu veux chasser un cerf avec un canif, tu vas jamais y arriver. Les millions que tu injectes là-dedans, pourquoi on les met pas dans des logements sociaux? Pourquoi on les met pas pour les nouveaux migrants, pour les aider? Tu sais, ces millions-là qui serviront, qui vont sûrement avoir un beau petit rapport, puis à la fin, ce rapport-là, là, il va être dans la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Puis
mais juste avant, il va être dans la plateforme électorale
du Parti libéral du Québec pour les prochaines élections.
Eh ben, je dois dire que je suis assez en désaccord avec toi parce que le Parti libéral, tu sais, personne va pouvoir dire que je défends le Parti libéral sur une base régulière. N'empêche que le Parti libéral a été le plus grand allié des personnes qui ont été victimes de racisme dernièrement dans la place publique. Là. Le seul qui a eu vraiment un discours ferme, qui a vraiment condamné les gestes d'extrême droite, les manifestations d'extrême droite, ça a vraiment été Couillard. Ouais, puis mais... la consultation sur le racisme systémique, veut pas, c'est une consultation qui a été demandée puis qui est par les militants, par la base. Là. C'est pas le Parti libéral qui a inventé ça. Déjà, les consultations sur le racisme systémique, ça se fait beaucoup, ça s'est fait en Ontario, par exemple, mais c'est les personnes qui sont victimes de racisme qui l'ont demandé. Là, je comprends, ça arrive juste avant les élections, c'est vraiment pas... Il y a personne qui veut que le racisme soit un enjeu électoral, là, ça va faire du bien à personne, là. Mais le fait d'avoir une commission sur le racisme systémique, enfin, ça, pour moi, ça peut juste être positif.
Déjà, un premier ministre qui ne condamne pas ces gestes-là, je veux dire, ça serait... Couillard n'a pas le choix de le faire.
Ben, ça a été le seul chef de parti qui l'a fait.
Par la suite, il y a eu la CAQ qui l'a fait, il y a eu... Même si c'est pas un chef de parti, c'est le premier ministre de tous les Québécois et les Québécoises. Son rôle est de faire ces choses-là, il ne peut pas reculer, ça c'est sûr et certain. Sa commission, sa consultation, il aurait pu quand même le faire avant. C'était déjà, depuis la charte, on disait tout à l'heure, la charte a apporté ça, donc ça faisait déjà un certain temps que ça durait. Alors pourquoi quand il est rentré au pouvoir, pourquoi il ne l'a pas lancé? Pourquoi cette chose-là n'est pas arrivée d'abord, avant? Pourquoi maintenant...
Peut-être que, tu sais, comme tu dis, c'est peut-être une stratégie, mais tu sais, c'est pas vrai que parce qu'il est premier ministre, il a le devoir de condamner qu'est-ce qui est arrivé. On prend juste l'exemple de, c'est un peu loin là, mais l'exemple de Trump avec qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'était Charlottetown?
Oui.
Est-ce que quelqu'un me confirme? Oui. Donc il a comme même pas condamné. Il était comme, les deux parties ont des problèmes, tu sais, comme.
Mais non, on parle quand même de Donald Trump, d'un système américain qui est extrêmement polarisé. Oui, je sais, mais dans le sens qu'il y a pas,
ça reste que Philippe Couillard a le choix. Et on a tous le choix de vouloir condamner ou pas.
Il est au Québec, puis on s'entend qu'on est dans un poil plus social-démocrate où le devoir envers les citoyens est plus prééminent qu'aux États-Unis.
Oui.
Alors, je crois que c'était tout à fait normal pour lui de le faire et j'imagine aucun premier ministre dans le passé pouvoir ne pas le faire.
Mais le Québec et les États-Unis, deux endroits différents, on est d'accord. Mais n'empêche que les chefs de parti, des autres partis, sont des aspirants premiers ministres, puis aucun moment, ils devraient être moins... ministrable que Philippe Couillard. C'est-à-dire qu'il devrait avoir la réaction qu'un premier ministre...
Oui, mais ils n'ont pas la plateforme que Philippe Couillard a. Philippe Couillard veut faire une annonce, il l'annonce, tout le monde les coupe. Le chef de parti, il envoie un communiqué à la presse, puis c'est dans les journaux, et voilà. Je veux dire, on parle pas du même poste. Je suis d'accord que tout le monde devrait condamner ça. Dans un monde parfait aussi, tout le monde devrait se lever. Puis dans un monde parfait, il n'y aurait pas des atrocités comme ça qui se feraient à Québec. Il n'y aurait pas des meurtres qui se feraient à Québec dans des mosquées. Je veux dire, c'est dommage, mais on arrive devant le fait. C'est juste que moi, je pense pas que c'est mal de condamner ça. Je pense juste que Philippe Couillard, il joue ses cartes incroyablement mal depuis un bout de temps. Ça va pas bien au gouvernement. Puis j'ai l'impression que ça sent la vieille tactique politique. Si vraiment tu veux régler le problème, tu vas donner les moyens financiers pour. Tu vas donner les éléments pour. Et en ce moment, faire une consultation comme ça, je trouve que c'est juste en apparence. C'est pas vraiment donner les moyens de régler un problème qui est beaucoup plus profond, qui va passe par l'éducation, qui passe par beaucoup plus d'endroits. Alors, faire une consultation comme ça a été fait dans le passé pour...
Bouchard-Taylor.
Bouchard-Taylor, exactement, puis que ça n'a pas été utilisé par la suite. Moi, je ne sais pas, j'ai comme tendance à être sceptique.
Bien, il y a eu plusieurs consultations. Il y en a une sur l'aide médicale à mourir, par exemple, puis celle-là s'est assez bien passée, puis elle a débouché sur un projet de loi intéressant. Oui, j'ai nommé
la consultation qui a fait le plus de consensus à l'Assemblée nationale. Mais dès qu'on sort du consensus, c'est difficile après de réutiliser ces choses-là. Même Bouchard-Taylor, ça n'a même pas été réutilisé au bout du compte.
Je sais pas. Bouchard-Taylor, c'est quelque chose... En tout cas, ces deux personnes-là ont eu un impact énorme sur la société québécoise. On en parle aujourd'hui encore. Ça fait combien d'années? Il y a plusieurs personnes qui considèrent que ça a créé un consensus. Oublions pas que la remarque principale de Bouchard et Taylor, c'était qu'il n'y en avait pas de problème, puis qu'il y avait juste un problème de perception. C'était la faute des médias.
Sur ces belles paroles, est-ce qu'on fait une petite pause musicale?
Moi, je dirais oui.
Bon, ben, si notre main girl l'a dit, on va écouter
Anticosti.
En fait, Anticosti. Wow, je disais la mauvaise
chose.
J'allais dire Étienne et le nom de sa chronique, mais non, c'est Anticosti de Catherine Leduc pour rester dans le politique. Vous venez d'écouter Anticosti de Catherine Leduc. Vous écoutez toujours la photomédia sur choc.ca. En troisième chronique, nous avons Camila Rodriguez-CA. Camila, quelque chose m'a dit que tu n'as sans doute pas apprécié la couverture médiatique des ouragans cette semaine.
Tu commences à bien me connaître, Émilien. oui, les ouragans qui se sont abattus avec une force inouïe sur la mer des Caraïbes cette semaine ont occupé énormément d'espace médiatique. Au Québec, on en a surtout parlé pour deux choses. Premièrement, la Floride et ses 6 millions d'évacués. Et ensuite, on a beaucoup parlé des vacanciers qui ont pu ou pas être rescapés de toute urgence de leur escapade paradisiaque dans le sud. Le sud, pour ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être pas habitués au terme, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens, des Français ou quoi, c'est un endroit mythique où il fait beau et chaud. Habituellement, c'est entre le Mexique et les Caraïbes et on utilise le sud pour aller décompresser sur le bord d'une piscine ou de la mer. Ben ça, c'est selon votre degré de tolérance au sable. Le mot-clé là-dedans, c'est l'utilisation. Le sud, peu importe ce que ça veut dire, est utilisé comme un outil, ben, pour assouvir un besoin. Ici, c'est le repos. Ah, et en passant, là, notez également que, pour votre culture, là, je dis ça comme ça, dans le sud, ben, en fait, il y a l'Amérique centrale, il y a les Caraïbes, il y a l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, c'est toutes des régions qui sont différentes, qui reportent à des pays différents et attachez-vous bien à des cultures différentes. Yeah! Tu l'as dit ici. Et si c'est la seule chose qui vous intéresse, toutes ces régions-là ont des météos différentes. Donc
incroyable, fais pas tout chaud puis beau partout dans le sud.
Ben t'essaieras de te mettre en maillot de bain en Patagonie puis tu m'en redonneras des nouvelles.
C'est pas comme à Cayo Coco.
Non. Au-delà de l'ignorance, il y a un fait qui demeure. Hey. C'est le rapport qu'on entretient avec les destinations soleil. On parle ici de pays avec leur histoire, leur culture, mais aussi leurs blessures, celles qui sont cicatrisées et celles qui saignent encore. Ces pays ont leurs mouvements sociaux, leurs intellectuels, leur vision du monde. Les réduire à des maracas ambulantes ne fait pas que vous donner l'air ignorant. Vous contribuez à perpétuer des stéréotypes qui font mal. Ces derniers encouragent un rapport vis-à-vis du Sud qui est franchement malsain. Tenez-vous bien, le Sud n'existe pas pour votre bon vouloir ni pour vos photos Instagram.
Prendre
l'avion, prendre la peine d'aller dans un avion, traverser les États-Unis, le tout pour rester dans un enclos de votre tout inclus, ben sincèrement c'est une claque sur la figure parce que on pourrait être n'importe où dans le monde, puis le résultat serait le même. On dirait qu'on a peur de sortir de son tout inclus. Peut-être que c'est à cause que c'est trop cher, mais on se méfie des locaux. Clairement, ils sont différents. Ils sont moins riches, peut-être, plus foncés, assurément. Dans beaucoup de cas, les pays occidentaux ont une très grande part de responsabilité dans le maintien de cette pauvreté héréditaire qu'il y a dans certains pays. Et encore une fois, faut pas tout mettre dans le même bateau. Comment? Pensez seulement à l'évasion fiscale, à l'exploitation des ressources naturelles. Et ça, c'est aujourd'hui, pas au 16e siècle.
Je trouve ça tellement intéressant, Camilla, qu'est-ce que tu dis? Parce que justement, encore une fois, à la Photomédia, je m'avais choquée concernant justement la couverture médiatique qu'on faisait de l'ouragan Matthew qui savait déferler sur Haïti en début d'année. Puis, tu sais, comme à chaque fois, là, t'entends, oh, le pauvre pays d'Haïti, oh, le pauvre pays d'Haïti. Tu sais, comme...
Comme si c'était un pays, dans le fond, avec une malédiction, comme s'il y avait quelque chose de magique justement derrière avec, le destin terrible d'Haïti, quand en fait, c'est pas de malédiction ni de sortilège dont on parle, c'est d'événements historiques auxquels les pays occidentaux ont pris part et pour lesquels on est responsable. Tu sais, c'est pas de la sorcellerie.
Il y avait le Journal de Montréal qui publiait un torchon de six pages, super grande avec des grandes photos. Haïti, pays maudit, selon l'expression.
Mais moi, je tiens à vous le rappeler, puis ça, je rappelle à tous les gens qui ne savent pas l'histoire d'Haïti à les lire parce que. Le pays d'Haïti, c'est le premier pays qui s'est affranchi de l'esclavage, qui a battu, en fait, la plus grande armée qui n'était pas l'armée française. Donc, moi, aujourd'hui, qu'on me dit... Oui, exactement. C'est la première terre indépendante qui... Tu sais, la révolution haïtienne, elle a mené à la révolution, à la guerre de sécession aux États-Unis, a mené au Brésil aussi par la suite. Donc, moi, les gens qui me regardent dans les yeux, qui me disent « Ah, pauvre Haïti, sérieusement, je te comme... » La carte de bibliothèque, elle est gratuite. Genre, vas-y, puis va lire.
Mais c'est, exactement, puis c'est dangereux. Oui, c'est dangereux qu'on laisse les gens... Écoutez, on vient de finir un baccalauréat en sciences politiques sans avoir eu un seul cours sur l'Amérique latine, puis sans que les professeurs nous en aient parlé une seule fois. Tu sais, il y a quelque chose là-dedans, là. Puis c'est pas juste l'Amérique latine, évidemment. Il y a plein d'autres régions dont on parle pas, on est terriblement occidentalo-centré, mais n'empêche que laisser les gens perpétuer ces stéréotypes-là, ben, c'est grave parce que, tu sais, je vais vous raconter une anecdote. Là. L'autre jour, j'étais sur le bord d'un feu. Puis.
Ça commence.
Écoutez-vous bien. Écoutez-moi ça. Bien. Donc, je pense.
C'est québécois, ça, être autour d'un feu?
Je sais pas, mais les chalets, ça nous appartient beaucoup. Bref, parce que j'étais dans un chalet, le feu était à côté. Puis, je mets mon cellulaire, je mets ma musique sur le système de son. Il y a une chanson d'espagnol qui part. Puis là, les gens écoutent ça, puis ils sont comme... tabarnouche, on dirait qu'on est dans le sud, hein? Quand est-ce que le reggaeton y part? Puis là, j'étais comme, comment sauter à travers le feu pour, tu sais, mais je veux dire, les gens sont tellement fermés d'esprit par rapport à l'Amérique latine et, tu sais, c'est tellement désolant à voir. Et je veux dire, le fait qu'on considère que ces régions-là soient un peu plus, puis c'est des, ben, je veux dire, des sous-régions, je veux dire, c'est des sous-pays, parce que c'est des endroits qui sont juste bons pour notre bénéfice. Puis, dernièrement, on l'a vu, là, quand on parlait des ouragans, c'était terrible, là. On parlait des personnes, des pauvres personnes. Combien, est-ce que vous avez vu l'histoire de ce couple qui a été rescapé par par un jet privé pour la maudite c'est quoi?
Modique.
J'en perds mes mots. De 4 000 $
ben oui, c'est
jusqu'au
ça.
New Jersey.
Pas cher. C'est la même chose que Air Transat chargeait.
Mais c'était incroyable. J'en revenais pas de l'espace qu'on donnait à ces gens-là pour parler de leurs vacances gâchées.
As-tu
par
vu
rapport... Non.
À Infoman, ils ont mis des clips là, de l'ouragan, c'était hilarant. Puis t'as le monsieur qui est comme pris à l'aéroport dans un de ces pays-là, touché par les ouragans, puis qui est comme « I just want to go back to my air-conditioned space and my hot shower.
» Derrière ça, il y a des vraies personnes qui habitent là, puis c'est leur pays. Les ouragans n'avaient même pas fini de passer sur les Caraïbes, qu'on parlait déjà des préparatifs en Floride. Tu sais, je veux bien croire que ça nous intéresse plus parce que, entre parenthèses, c'est comme, ils sont plus culturellement proches de nous. C'est triste, hein? Mais n'empêche que ça en vient quasiment de la malhonnêteté, là, tu sais. On passe des années, des heures et des heures à faire des topos sur pas grand-chose, en fait, parce que l'ouragan n'était pas encore arrivé. Pour laisser de côté la nouvelle, tu sais.
Puis ça soulève un autre problème aussi. J'avais lu un article là-dessus, mais j'ai passé vite fait à travers, là, mais ça parlait de cette espèce de droit sacro-saint à ce qu'on aille te chercher quelque part ailleurs sur la terre.
Ah, je l'ai lu, oui. C'était intéressant parce que les gens étaient vraiment outrés qu'on puisse pas aller, tu sais, de pas se faire aller chercher par les forces armées canadiennes. Sauf que, tu sais, ça montre un peu le rapport que les gens ont avec leur destination vacances parce que pour eux, ben, ils s'en vont dans un endroit où il y a du soleil puis de la plage. Fait que de pas pouvoir se faire aider par ton gouvernement. Tu sais, c'est toi, au bout, là, je veux pas mes petites tendances libertariennes, là, mais au bout du compte, là, c'est toi qui décide d'aller en vacances, c'est un privilège d'aller là-bas, puis t'exige qu'on puisse te rapatrier. Excuse-moi, là, mais il y a d'autres choses à faire. Là.
C'est libertarienne hypocrite, parce que tu fais le choix en sachant très bien qu'une saison des ouragans, tu sais que ça peut arriver ces choses-là, puis après, quand tu fuis le Québec justement, puis tu acceptes aussi de ne pas payer des taxes pendant un bout de temps parce que t'as deuxième maison là-bas, après, il faudrait que ton endroit, ton pays, vienne te chercher en situation de crise. Je dis pas si... il y a une guerre civile qui éclate, personne ne veut venir, ok. C'est dans ces situations-là, je pense qu'il y a quand même un devoir de la nation d'origine. Mais quand c'est des trucs... bref, je pense qu'il y a une question morale qui se pose.
En même temps, il y avait 200 pièces de rabais sur les billets pour Caillou Coco. Vous ne pouvez pas manquer cette occasion-là.
Ouais, mais admettons que c'est pas juste les carrés rouges qui sont des enfants gâtés, là, puis qui ont tout ce qu'ils veulent, tout cru dans le bec. Là. Disons-le comme ça.
Non, c'est ça. Ben, j'avais lu un article là-dessus sur justement en 2012 où on critiquait beaucoup aux jeunes, tu sais, de boire de la sangria sur les terrasses, puis de voyager. Ben, les gens qui ont de l'argent, hein, ils veulent pas voyager comment les jeunes voyagent aujourd'hui, là. Tu dormirais, toi, dans une auberge de jeunesse, dans un dortoir à 10 personnes, comme... En tout cas, c'est un autre débat. Ouais.
Mais moi aussi, j'aimerais ça que le gouvernement vienne me chercher dans un dortoir à 10 personnes quand il fait chaud. Non, c'est critique quand même. C'est frustrant, tout ça.
Ouais.
Ben, écoutez... ça fait un peu le tour. Je pense que de toute façon, il nous reste plus grand temps.
Comme d'habitude.
On s'emporte. On a eu des beaux débats ce soir. Je suis content. J'espère que vous avez aimé ça, que vous allez aimer notre page Facebook et que vous allez nous suivre encore une fois.
Nous, on revient dans 2 semaines, c'est ça?
On revient dans 2 semaines, c'est ça. On est un peu plus paresseux cette session. On vous revient à chaque 2 semaines, les vendredis à 20h, mais en tout temps sur choc.ca et en podcast sur iTunes et Google Play Music. Donc, on va se laisser avec une dernière petite chanson. Vous écoutez la Photomédia en compagnie d'Emilien Roscanou, Camilla Rodriguez-Cia, Tessie Jean-Paul, Étienne Tardy-Paradis ainsi que Ryan Roumilière. On se voit dans 2 semaines.
Au revoir.
Et la chanson, c'est Everything Is in Everything de Laura Sauvage.
Vous présente le groupe Danakil, solide ambassadeur du reggae français, en concert le vendredi 29 septembre au Théâtre Fairmount pour la sortie de son nouvel album. Billets en vente sur théâtrefairmount.com.
J'ai toujours su qu'il fallait te suivre, de toute façon nos destins étaient liés.
What a day, ici Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de choc.
Montréal célèbre son Sweet 16 et tu es invité. Joins-toi à la fête du 13 au 17 septembre avec des concerts, des arts visuels, des films, de l'artisanat, des conférences, un barbecue et beaucoup plus. Viens profiter d'une programmation éclectique et explosive avec plus de 400 groupes de musique, dont Ostra, Royal Trucks, Sweet Shop Boys, Trio Jordan and the Mighty Diamonds. Rendez-vous au www.popmontréal.com pour consulter la programmation complète et réserver vos billets.
Choc.ca, c'est ton média numérique qui se lit, se regarde et s'écoute. Si toi aussi tu souhaites prendre le micro pour cet automne, tu as jusqu'au 15 septembre pour proposer un projet d'émission ou de série. Musique, actualité, humour, création sonore ou sujet inusité, court ou long format. Pour en savoir plus, rends-toi sur l'onglet S'impliquer sur le site www.choc.ca.
Tous les vendredis et samedis, le Bar Le Record vous convie à ses soirées DJ présentées en collaboration avec Choc.ca. Venez vibrer au son des années 40 à 70. Soul, funk, rock'n'roll, yéyé, gogo et bien plus. Le tout joué exclusivement sur vinyle. Pour l'occasion, la pinte de bière est à 5,75. Ouvert tous les jours, le Bar Le Record est situé au 7622 rue Saint-Hubert, à deux pas du métro Jean Talon. Visitez notre page Facebook pour vous tenir informé de nos différents événements et promotions.
Les productions Nuit d'Afrique vous présentent le groupe Danakil, solide ambassadeur du reggae français, en concert le vendredi 29 septembre au Théâtre Fairmount pour la sortie de son nouvel album. Billets en vente sur théâtrefairmount.com.
J'ai toujours su qu'il fallait te suivre, toute façon nos destins étaient liés.
L'équipe de Dream Events vous invite à la toute première édition de Fashion Attitude, un défilé de mode multiculturel haut en couleurs. Tous les profits iront à la Société canadienne de la sclérose en plaques. C'est un rendez-vous samedi le 23 septembre à 17h au Centre des loisirs communautaires La Jeunesse. Venez nous aider à vaincre la sclérose en plaques. Les billets sont en vente au coût de 20$ en pré-vente. Ils sont disponibles à l'École du show business de Montréal. Ensemble, allions la mode à la cause.
What are the day? Ici Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de Choc.
Pensez que c'est sexy.